C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, nous sommes mercredi, milieu de semaine, 15 juin. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, vous dire qu'on a une très, très belle journée en vue. Ciel généralement dégagé, déjà ce matin, 15 degrés, le maximum aujourd'hui, autour de 27, l'humidex 31. Et la pluie devrait commencer probablement au cours de la nuit. Demain, on prévoit, et c'est la journée grise avec orage, pas beaucoup de luminosité, et on parle facilement, surtout en fin de journée, de, je vous dirais, 10 à 15 mm de pluie. Le maximum prévu, autour de 27, l'humidex, 37 degrés. Et vendredi, on prévoit de la pluie intermittente, moins de pluie, mais quand même, c'est du temps gris toute la journée, du temps plus frais, 21. L'aperçu pour le week-end, samedi, soleil 20. Et dimanche, journée de la fête des Pères, journée du Grand Prix, on prévoit autour de 23 degrés. D'abord, coup d'œil sur le portefeuille ce matin. Certain nombre de faits à retenir. Tout d'abord, on peut dire que on s'attend aux États-Unis à une augmentation dès aujourd'hui des taux d'intérêt. Et ce serait la Banque fédérale américaine, la Réserve, qui en ferait l'annonce avec une majoration de 0,75. Donc, l'augmentation la plus forte depuis 1994. Tout ça en raison de l'inflation qui est très élevée, qui galope, et l'impact sur les prix. La Banque du Canada a déjà indiqué qu'elle pourrait augmenter les taux d'intérêt, le taux directeur jusqu'à 3 % et peut-être même plus au besoin. En un mot, et on le disait hier avec Pierre-Yves, il faut prévoir une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation importante avec l'effet dans le calcul de votre hypothèque, de vos remboursements pour des marges de crédit des prêts, là. Ça risque d'augmenter pas mal d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour ce qui est des activités sur les planchers boursiers, c'est pas la catastrophe de la veille, mais ça continue à nager dans le bas. Et donc, les différents titres, les différents fonds de placement qui perdent quand même des plumes. Et je vous dirais que ça, c'est assez préoccupant, surtout pour des gens qui comptent là-dessus. Des gens plus âgés, des gens pour qui c'est un revenu maintenant. Comme Pierre-Yves disait, si vous avez 40 ans, ben c'est moins grave parce que vous allez vous rattraper dans le temps. D'ailleurs, l'Autorité des marchés financiers disait hier qu'une crise comme celle-là, ça peut prendre 2 ou 3 ans, parfois moins, mais la moyenne, c'est autour de 2 ou 3 ans avant de récupérer ce qui a été perdu. Alors, attendez-vous probablement à une forte hausse des taux d'intérêt assez rapide. Ça commence par les États-Unis aujourd'hui. Troisième élément, la crypto-monnaie, Bitcoin, si vous préférez. Puis c'est très polarisant. Il y en a là, qui croient à ça dur comme fer puis qui mettent toutes leurs billes là-dedans. Alors, on vient de réaliser la fragilité des crypto-monnaies parce qu'au cours des 2 dernières années, il y a eu comme une vague. Ce qui fait que maintenant, cette industrie vaut des centaines de milliards de dollars. Et elle s'est comme écroulée. C'est vraiment là comme un effondrement. Alors, après plusieurs semaines de chute de valeur, il y a une entreprise, par exemple, qui a annoncé qu'elle coupait 20 % de ses employés. D'autres ont décidé de geler les fonds, pas possible de faire de retrait. D'autres ont également indiqué qu'ils sont en train de se restructurer. Alors, c'est un écosystème précaire, bâti sur du risque, avec pas de réglementation, ce qui fait maintenant que, disons que depuis l'automne, c'est une perte globale moyenne là, d'à peu près 65 %. On va parler de vacances. C'est pas un portrait très rose et ça s'explique par, je dirais, une espèce de suite logique d'événements. D'abord, les gens ont eu des vacances perturbées depuis 2 ans. Ceux qui avaient des plans de voyage à l'étranger ont vu ça repousser. On s'est rabattu sur des déplacements à l'intérieur du territoire pour beaucoup. D'autres sont demeurés chez eux, on a investi autrement. Il y a comme une soif de partir, une soif de voyager. Et plus les barrières sanitaires, les règles sont assouplies, plus les gens réservent. Le problème, c'est que comme partout, pénurie de main-d'œuvre. Alors, je regardais ce matin là, le texte dans le New York Times sur le chaos dans les aéroports. Des heures d'attente dans les contrôles de sécurité, des vols qui sont annulés par centaines, des bagages qui sont perdus. Et on donne des cas très précis, par exemple, il y a eu 2800 vols qui ont été annulés pendant la fin de semaine du Memorial Day aux États-Unis, ce qui est quand même beaucoup. Il y a des vols qui sont repoussés. Quand on dit annuler des vols, ça veut dire qu'on essaie de concentrer les passagers sur d'autres vols. Et si vous avez des plans pour l'Europe, depuis le mois d'avril, il y a une demande tellement forte que les compagnies qui font face à un manque de personnel n'arrivent pas à répondre à l'ensemble des besoins. Les compagnies aériennes ont fait beaucoup de mises à pied et là reprennent leurs activités, mais il y a des gens qui ne veulent pas revenir. Puis on voit ça partout, là. En France, à l'aéroport Charles de Gaulle, hier, une centaine de vols d'annulés. Le syndicat a décidé de débrayer, le syndicat des employés de l'aéroport. Ils veulent avoir une augmentation de 300 euros par mois. Et en Italie, par exemple, il y a eu 360 vols d'annulés. Il y a une grève également, des gens qui veulent améliorer leurs conditions. La compagnie aérienne scandinave, les pilotes qui menacent de débrayer. Alors, tout ça fait qu'il y a un chaos. Dans les faits, vous vous retrouvez à l'aéroport avec quelques conseils de base qui existent déjà, mais qui sont encore plus vrais maintenant. Un, présentez-vous 3 puis 4 heures avant votre départ. Surtout si vous êtes, par exemple, en Europe. Deuxièmement, si vous avez une correspondance à prendre, prévoyez du temps entre les deux parce que vous risquez d'être coincé. Et une bonne fenêtre. Troisièmement, il est plus que recommandé aux gens qui voyagent de traîner à bord de l'avion une petite valise avec ce dont vous avez besoin pour quelques jours. Pourquoi? Parce que la gestion des bagages est chaotique dans beaucoup d'aéroports. Puis Alain me parlait de ses amis qui ont perdu leurs bagages pendant presque toute la durée des vacances. Et dans certains cas, ça peut prendre une semaine. Donc, ça vous prend, je ne sais pas si vous avez des médicaments, si vous avez besoin de vêtements, c'est sûr, là. Prévoyez un minimum pour pouvoir fonctionner dans l'attente de récupérer vos bagages. Et puis l'article se termine en disant, est-ce que ça pourrait se détériorer davantage? Selon certains experts, la réponse est oui. Et là, on a vu hier le gouvernement fédéral qui suspend l'obligation de se faire vacciner pour prendre l'avion, pour prendre le train. Le port du masque est quand même maintenu dans les avions. On sait qu'il n'y aura pas de test aléatoire aux frontières, mais les gens non vaccinés, les Canadiens qui reviennent non vaccinés, vont devoir passer un test, se placer en quarantaine. Sur les bateaux de croisière, la vaccination des touristes et des employés est obligatoire parce qu'on considère que sur des bateaux de croisière, le risque est encore, disons, assez élevé. Puis on recommande aux Canadiens qui voyagent d'être prudent puis de respecter les règles parce que ça varie. Alors, se renseigner sur les règles sanitaires dans les pays que vous avez l'intention de visiter. Mais sérieusement, là, c'est vraiment compliqué. Et c'est pas qu'au Canada, là. On a eu des cas à l'aéroport de Toronto. Ça s'est un peu amélioré. Mais les prochaines semaines, à partir du 24 juin, là, puis le mois de juillet, puis le mois d'août, là, ce sont les mois où les gens voyagent énormément. Et la saga des passeports continue. Il y a des cas tristes, je l'ai dit hier, là, j'en ai tous les jours, puis des gens, puis on va le voir tantôt avec Elisabeth, qui s'installent puis qui vont camper parce que là, le sablier est renversé et tu as besoin de ton passeport, tu pars demain, après-demain. C'est assez préoccupant. Je reviens sur la vague de chaleur en Europe, en France, en Espagne, beaucoup. Et pour les prochains jours, on prévoit des températures très, très élevées. Ça pourrait dépasser les 40 degrés Celsius. Et là, c'est vraiment l'occasion de tester le système. Par exemple, dans les établissements scolaires, les pompiers qui doivent s'adapter. C'est une période de chaleur assez précoce pour la France, pour le sud-ouest du pays. Et on sait qu'il y en a eu déjà un certain nombre. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Notamment des personnes âgées dans plusieurs municipalités, villages. On a développé des systèmes de surveillance. On demande à des premiers répondants de faire le tour. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent seuls? Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils sont hydratés? Parce qu'il va y en avoir d'autres épisodes comme ça durant l'été. Et j'ajoute, en termes de préoccupation, quand on voit les chiffres ce matin, en gros, c'est à peu près le tiers des Américains qui se trouvent dans des endroits où il y a des inondations. Il y a des feux de forêt, donc des vagues de chaleur aussi qui peuvent causer des dommages importants. C'est quand même beaucoup de monde. Et ici, le Globe and Mail ce matin publie la liste des villes canadiennes qui sont les plus à risque avec les bouleversements climatiques, avec les inondations. Et comment on calcule ça? C'est l'Université Western qui a fait le tableau. C'est de dire, dans les territoires potentiellement inondables, il y a combien d'habitations, il y a combien d'infrastructures. Et il y a deux endroits sur la liste des 15 où on considère que le risque est plus élevé, que l'impact serait, disons, plus important. Il y a la région de Sorel, puis il y a la région de Dolbeau-Mistassini. Et ce qui pourrait amener les gouvernements à limiter le développement, puis on sait que dans des territoires inondables, on a permis la construction pendant des années. Ça n'a pas commencé il y a 10 ans, là, c'est la réalité de plusieurs villes parce qu'on était, assoiffé de revenus, puis on avait besoin d'espace. Puis, sincèrement, on ne se posait pas trop ce genre de questions-là. Mais ça pourrait forcer de restreindre des développements futurs. Puis tous les jours, dans vos différents médias, vous allez voir, je voyais ce matin, je pense, c'est dans la presse, Radio-Canada, là, une chicane autour du golfe de Candiac. Ça a été racheté. Il y a un promoteur qui voulait en faire une espèce de nouveau quartier résidentiel. Puis là, les citoyens disent non, il faut en faire un parc. Puis là, c'est pas vrai qu'on va ajouter de la population dans ce coin-là. Alors, ce sont des enjeux importants sur le développement futur. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? D'abord, on approche le 4e mois de cette guerre. Les combats sont évidemment toujours intenses et les Ukrainiens affiche une certaine frustration concernant la livraison des armes, surtout les armes et les systèmes de défense. Je parlais avec Tetiana Ogarkova tantôt. Grosso modo, le ministère ukrainien de la Défense dit que le pays a reçu environ 10% des armes promises par les Alliés. Pas beaucoup, ça. Et que entre-temps, il y a des frappes aériennes. On peut penser que le Donbass, qui est déjà sous contrôle russe, on s'attend vraiment à ce que ça bascule. Les Russes qui frappent par les airs se déploient au sol. Donc, tout ça arrive au moment où les ministres de la Défense de l'OTAN vont se réunir pour voir est-ce qu'il y a un moyen de trouver une voie de passage. Mais c'est une guerre qui s'enlise, je vous le disais, là, bientôt le 4e mois. Et beaucoup de discours, beaucoup de colère contre le président Poutine. Mais jusqu'à maintenant, si les Russes n'ont pas atteint leurs objectifs dès le départ, là, puis chasser le gouvernement, prendre le contrôle de la capitale, ils ont quand même fait des progrès importants sur le terrain. Hier, c'était le rapport concernant la DPJ. Et ce que l'on note, c'est une hausse des signalements. Pas des cas retenus, mais des gens qui signalent un potentiel d'enfants négligés, maltraités. C'est une augmentation de 12,5% pour ce qui est de l'ensemble du territoire québécois. Il y a eu au total 132 632 signalements, donc une bonne augmentation. Puis là, c'est vraiment le nombre record des 5 dernières années. C'est vrai qu'il y a eu la pandémie. Puis bon, il y a toutes sortes d'explications. Est-ce que ça veut dire que les enfants souffrent plus? Peut-être pas. Bon, souhaitons que ce n'est pas ça. Souhaitons que les gens sont peut-être plus ouverts, plus vigilants, moins à détourner le regard et à signaler. Sauf que la liste d'attente est longue, on n'arrive pas à combler tous les postes, et ça veut dire qu'avant qu'on puisse traiter certains dossiers, c'est extrêmement long. Alors, c'est un manque d'intervenants, puis les gens qui sont là sont débordés, puis c'est très complexe, puis en même temps, c'est un portrait d'une partie de la jeunesse qui est en difficulté. On parle beaucoup de jeunes qui sont anxieux. Ça m'a beaucoup frappé hier quand on parle des signalements. Donc, des enfants qui sont frappés par la pandémie, qui ont une série d'enjeux personnels. Et c'est sûr que selon le code de l'appel, on va intervenir plus vite. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de parents qui sont désarmés, qui ne savent plus quoi faire et qui ont besoin d'une forme d'encadrement, puis d'un coup de pouce. On va en reparler tantôt, mais on est loin d'avoir réglé le cas. Puis comment tu rends ce milieu de travail attirant? Comment tu arrives à convaincre de jeunes hommes, de jeunes femmes d'aller faire carrière à la DPJ? Passer du temps avec des gens de la DPJ à Montréal il y a quelques semaines, puis il y a des gens dévoués, dédiés, des gens là qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, puis qui s'investissent, puis vraiment là impliqués, puis tu sens là, j'allais dire qu'ils sont en mission. pour permettre cette transition à des enfants qui ont eu un mauvais départ dans la vie. Mais il y en a beaucoup qui passent, puis il y en a beaucoup qui, dès qu'ils ont une fenêtre d'opportunité d'aller ailleurs, le font. Là, je sais qu'il y a une campagne de presse pas mal contre le Grand Prix. Là, je m'aperçois de ça ce matin, entre autres dans le Journal de Montréal. Là, c'est une compétition entre les empires, je ne sais pas trop. Bon, on le sait, le Grand Prix de Montréal, c'est un événement bruyant, c'est un événement polluant, c'est la fête de l'automobile. Et là, ce matin, on nous explique que c'est un événement qui monopolise l'île Notre-Dame, qui pourrait être fréquenté par les pères et leurs enfants durant la fin de semaine qui vient, que ce sont des cas de gaspillage alimentaire. Lors de la dernière édition, il y a 12 793 repas qui ont été remis à la table des chefs pour éviter le gaspillage. Donc, les riches touristes ne mangent pas nécessairement tout. On fait beaucoup de bouffe. Il en reste beaucoup. Heureusement, ça semble récupérer. On parle également des gens qui viennent de loin. Puis là, vous avez ces avions avec les voitures. Autrement dit, c'est symbole de pollution, c'est symbole de prostitution. Puis paraît-il que ça ne donne pas les résultats en termes de retombées, les retombées fiscales qui sont prévues. Bon. Mais en même temps, c'est un gros événement touristique. Je comprends qu'on peut haïr ça. Puis là, faut arrêter de faire les autruches. Là. Il semble que le bureau de Mme Plante ne voulait pas trop commenter. Mais tu sais, on en veut ou on n'en veut pas un Grand Prix? Puis est-ce que les investissements publics rapportent? Peut-être qu'on est rendu à dire que non. Peut-être qu'on on a une nouvelle grille d'analyse. Je sais que les commissaires vont en parler ce matin. Mais c'est quand même, il y a une campagne, disons, assez intense cette semaine contre le Grand Prix. Et aussi, un mot sur la course à la direction des conservateurs. Je suis ça du coin de l'œil. Jonathan Trudeau s'en occupe. Mais il y a Brian Mulroney qui, hier, a profité d'une remise d'un prix pour dire à quel point il ne reconnaissait pas les conservateurs. Puis je pense qu'il a raison. C'est un parti qui a changé. C'est un parti tiraillé par des courants d'extrême droite, puis d'une base conservatrice plus traditionnelle. Puis c'est un parti qui ne gagnera jamais, malheureusement, même parce que on peut avoir, évidemment, des critiques très, très pointues contre le gouvernement Trudeau, mais tu regardes certaines prises de position. Tu sais, j'imagine Poilievre, là, qui veut se mêler des affaires de la Banque du Canada, puis qui est le porte-étendard de la crypto-monnaie. C'est pas une bonne semaine pour lui. Et Mulroney rappelle avec raison qu'il a pris le pouvoir en faisant cette espèce de coalition, entre autres avec les nationalistes du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
7h26, c'était la présentation hier du bilan DPJ pour 2021-2022. C'est une augmentation importante des signalements. Pas tellement des cas retenus, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, qui ont mis en évidence des problèmes, beaucoup de cas d'anxiété. On sait que la période de la pandémie a été extrêmement difficile. Puis un peu plus tôt cette semaine, on apprenait qu'environ le tiers des jeunes qui passent par la DPJ ont également ce qu'on appelle un épisode d'itinérance. Donc, ils se retrouvent un peu à la rue sans abri. C'est l'occasion ce matin pour aller un peu plus sur le terrain avec deux invités que je vous présente. D'abord, Savannah est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est une jeune adulte et elle est passée à travers les méandres de la DPJ. Et Charles Prudhomme, lui, est depuis 24 ans à la DPJ. Bonjour.
Bonjour.
Savannah, je commence avec toi. Comment tu t'es retrouvée à la DPJ? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie?
En 2013, donc j'avais 11 ans, j'ai eu un accident de voiture où est-ce que ma mère était présente et elle en est décédée. Donc par la suite, c'est sûr que, étant donné que j'étais un enfant, puis que mon père n'était pas nécessairement présent dans ma vie à ce moment-là, j'ai dû connaître une famille d'accueil qui s'est enchaînée avec autre famille d'accueil, centre jeunesse et puis ainsi de suite.
Juste avant, pourquoi la première famille d'accueil, ça n'a pas fonctionné, que tu t'es retrouvée dans une deuxième, puis après ça au centre jeunesse?
En fait, la première famille d'accueil, c'est que c'était une période d'évaluation. Donc, on m'a mis en famille d'accueil pour évaluer c'est quoi les besoins d'une jeune fille de 11 ans qui vient de perdre sa mère, puis tout ce qu'il y a avec, étant donné que j'avais des petits problèmes TDAH et opposition à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai eu une première famille d'accueil qui était la période d'évaluation de 30 jours. Par la suite, ils m'ont mis dans une famille d'accueil qui pensait être la bonne famille d'accueil pour moi avec l'évaluation de mes besoins. qui par la suite s'est avéré que j'avais un petit peu, je vivais un deuil à ce moment-là, donc l'opposition, là, je voulais pas, je me sentais pas à ma place, c'était pas ma famille.
Comment tu te sentais? C'est ça que j'aimerais savoir.
Je me sentais pas du tout à ma place, en fait. C'est que j'ai eu l'impression qu'on m'a pris de mon milieu où j'étais dans ma petite ouate, dans mes choses à moi, puis me déposer dans une place où est-ce que j'étais un petit peu forcée d'être. Donc, bonjour, nous ici, on est une famille d'accueil, puis c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, c'était un petit peu difficile pour moi de l'adaptation. Déjà, je viens de perdre ma mère. J'avais eu un accident de voiture. J'avais des séquelles physiques, donc des blessures. J'avais besoin d'adaptation physique. C'est ça, d'aller me déposer dans une place où est-ce qu'il y a d'autres jeunes, il y a d'autres gens qui vivent là-bas, puis que moi, je dois m'adapter à ce climat, excusez-moi. Donc, c'est ça qui a été vraiment difficile pour moi, de vraiment l'adaptation à tout ça, de... tout en même temps. Perdre ma mère, perdre ma famille, voir moins de monde, là, ça fait beaucoup de chicanes dans ma famille aussi. Fait que c'est vraiment tout ça qui était...
Ça fait beaucoup de chicanes dans ta famille?
Oui, c'est ça. Ben, étant donné que, dans le fond, là, il y a des gens qui voulaient m'avoir chez eux. OK, ben check, toi, t'es pas adapté pour l'avoir chez vous. OK, ben toi non plus. Donc, c'est vraiment... ça fait comme
toi,
beaucoup...
Toi, t'es prise là, dans un tourbillon familial. Là, pis,
oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, ça a vraiment été quelque chose qui était une situation stressante. Puis anormale. Et évidemment, je viens de perdre ma mère en plus, donc ça a vraiment amené beaucoup de problèmes autour de moi. Ils ont essayé de me retirer de ce milieu-là pour me mettre dans une place qui était un petit peu plus posée, sauf que ça revenait un petit peu au même, mais avec d'autres problèmes.
Comment tu t'es retrouvée au centre jeunesse?
En fait, c'est ça. C'est que j'avais commencé à avoir un petit peu plus de problèmes d'opposition, donc je m'opposais à tout. Savannah, on va manger aujourd'hui? Non, moi, je mange pas. On va aller à l'épicerie? Non, moi, je bouge pas de mon lit, je veux pas sortir, je veux juste avoir ma petite bulle, je voulais pas sortir de ma chambre, je voulais absolument rien faire. Puis c'est ça. À 13 ans, après deux familles d'accueil et un petit séjour en centre jeunesse pour une évaluation après la deuxième famille, j'ai commencé à faire quelques petites fugues par-ci, par-là. Au début, c'est sûr que c'était des petites fugues de 2 heures, 3 heures, 4 heures, où on comprend le principe. Mm-hmm. Qui, par la suite, c'est vraiment... j'ai commencé à connaître des gens un petit peu moins fréquentables. Puis là, ça s'est vraiment transféré à avoir des problèmes de comportement qui mettaient ma sécurité en danger. Fait que là, c'est ça. C'était
quand vous dites votre sécurité en danger, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, j'ai 13 ans, je suis dans la rue, je passe une nuit dans la rue, j'ai pas de logis, j'ai pas de place où aller, donc c'est là que ça devient dangereux.
Puis des mauvaises fréquentations.
Oui, c'est ça, exactement. Donc des personnes qui sont pas qui sont pas super positives, qui n'ont pas nécessairement aussi eu leur vécu facile. Donc là, c'est que, tu sais, tous ces mindings négatifs-là ensemble font en sorte que ça aide pas à ma cause. Puis là, ben là, je fuguais de plus en plus longtemps. J'avais eu de la petite consommation par-ci, par-là. Là, je retournais au centre jeunesse. OK, Savannah, là, on va faire une évaluation de ce
là,
qui s'est passé.
Là, je vais t'arrêter, puis je vais parler avec Charles Prudhomme.
Mais oui, pas de problème.
Comment on gère ça, un cas comme Savannah, qui clairement, là, est dans une période d'opposition puis de confrontation?
Ben, au départ, ça a été mes collègues en réadaptation interne qui ont eu à accueillir Savannah. Puis c'est toujours le défi de faire l'équilibre entre sa protection, puis assurer justement sa sécurité, puis assurer un développement qui serait le plus optimal, mais aussi d'y permettre d'avoir une vie qui se rapproche le plus de la normalité. Puis c'est sûr que c'est un défi, là. En réadaptation interne, c'est des groupes de 13 jeunes, puis ils ont tous des défis. Avec Savannah, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est retrouvée en unité d'encadrement intensif pour s'assurer qu'elle ne quitte pas puis qu'elle ne fuite pas. Et là, ben, à un moment donné, c'est que lorsqu'elle sortait de ces milieux-là et qu'elle retournait dans une unité régulière, elle pouvait quitter pendant des semaines et même des fois des mois. Et pendant ces temps-là, on n'a aucune nouvelle de Savannah. On a une idée de ce qu'elle fait, mais on ne sait même pas où elle est.
Je vous arrête. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces périodes-là?
Je faisais plusieurs choses qui sont pas nécessairement positives. Donc, c'est sûr que j'ai connu des milieux peu fréquentables. Parfois, j'allais voir des gens qui étaient dans des milieux, on peut dire, illégaux. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à avoir des comportements qui s'associaient à ces milieux-là.
On va se parler, là. Tu fréquentais des bombes.
Ouais, c'est ça, exactement.
Des bandits, criminels.
Des gens qui étaient pas socialement acceptables. Donc, c'est sûr que ça traînait dans la criminalité on peut aller dans toutes les sphères. Puis, c'est ça. C'est là que ça devenait vraiment un danger pour moi-même et pour ma vie. On s'entend que...
Puis est-ce que c'est parce qu'on te retrouvait ou tu revenais de toi-même au centre?
Non, je crois que ça arrivait très, je pense que c'est arrivé très rarement en fait que je suis revenue par moi-même. Le pourquoi était que je me sentais vraiment pas à ma place. Peu importe où j'étais pas à ma place. Donc, je me sentais, j'étais trop dans la pièce.
Je vais vous entendre là-dessus. Ouais. Le retour au centre après une disparition comme ça, une fugue là, qui dure plusieurs semaines.
Bien, je vais vous parler à partir du moment où moi, j'ai commencé à travailler avec Savannah. À ce moment-là, elle sortait d'encadrement intensif. Elle avait fait un séjour dans un autre centre de jeunesse. Et puis, l'équipe de travail autour de Savannah, on parle d'intervenantes sociales, on parle des jeunes de la DPJ, mais aussi la magistrature. À un moment donné, on s'est assis et on a dit, là, il faut offrir à Savannah quelque chose qui va être complètement différent. Ce qu'on veut, c'est de rester en contact avec elle. Parce que si elle nous quitte, comme elle le fait, mais qu'on n'a pas de nouvelles, on ne peut pas l'accompagner à aucun niveau. Et c'est ce qui a été offert à Savannah. On dit, maintenant, là, tu vas avoir une place dans une unité, mais cette place-là, tu n'es pas obligé de l'occuper 7 jours sur 7. Mais en contrepartie, quand tu es à l'extérieur, tu dois garder contact avec nous. Donc, il n'y aura plus de jeu de « on court après toi ». Et ça l'a complètement changé. Son approche envers les intervenants, puis ça nous a demandé, nous, de travailler différemment beaucoup. Donc, Savannah, on l'a suivi, moi comme éducateur, son intervenante sociale et bien d'autres autour, là, parce qu'il y a eu un gros réseau qui s'est installé autour de Savannah. On l'a suivi dans toutes ses péripéties. Puis ça, c'est dans plusieurs régions du Québec, puis on allait la chercher, on allait la voir.
Tu poussais loin, là.
Oui, puis ça, là, on parle juste du Québec, là, mais...
T'es allé ailleurs aussi?
Ouais.
Ça lui est arrivé. Okay. Mais dans ce changement de rapport-là, l'idée, c'est de dire, Savannah, on veut que tu reprennes du pouvoir sur ta situation. Et notre job à nous autres maintenant, ça va être de t'accompagner, peu importe vers où tu vas. Ma job à moi, ça va être un pouvoir d'influence. Quand tu vas arriver à une intersection, j'aimerais ça que tu t'arrêtes en disant, si je vais à gauche, qu'est-ce qui se passe? Si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça que tu me poses la question. Mais en même temps, si je te dis que je pense que tu devrais aller à gauche, si tu vas à droite, je vais être là quand même. Et ça a vraiment changé notre rapport d'intervenant à jeunes. Mais c'est toute une équipe. Là. Savannah a cette capacité-là de se monter un réseau. Autant lorsqu'elle était dans la rue et qu'elle était dans le undercover, parce qu'elle disparaissait complètement, même des réseaux sociaux. Là. Elle avait un réseau qui n'était pas super.
On a compris
mais
ça.
Mais elle a su utiliser ses forces pour se monter un réseau positif autour d'elle. Qui est encore là aujourd'hui. Là.
Parce que vous avez fait avec elle la transition vers la vie d'adulte.
Voilà, c'est le programme dans lequel je travaille, transition à la vie adulte.
OK. Je veux que tu me parles un peu, puis je veux pas de détails. Là. As-tu l'impression que ces passages-là, là, ces fugues-là, puis ces fréquentations douteuses, t'aurais pu là, vraiment déraper complètement, puis avoir des problèmes de consommation
oui.
de drogue solide, là? Aurais-tu pu t'enfoncer?
Oui, en fait, ça, c'est sûr, parce que selon moi, quand tu es dans ces milieux-là, c'est facile de glisser. Justement, j'ai côtoyé des gens qui, eux, ont plus que glissé, on peut dire. Puis, je pense que justement, quand Charles est entré dans ma vie puis qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de m'accompagner, de pouvoir me montrer un petit peu et m'accompagner à moi ce que je voulais, en fait, c'est Savannah, tu veux quoi? Nous, on va aller avec toi. Là, je me suis sentie un petit peu plus écoutée, puis j'étais ouverte à recevoir de l'aide. Donc, c'est sûr que ça aurait pu glisser, que ce soit dans la consommation, dans les milieux du travail du sexe. Et tu sais, on va s'entendre que dans ces milieux criminels-là que j'inclus, il y a eu un petit peu de ça, qu'il y a des gens que j'ai côtoyés dans ces milieux-là. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est facile de glisser. Très, très facile parce qu'en fait, quand tu es dans ce minding de ce mode de vie-là, en fait, c'est que tu te dis toujours ça peut pas être plus pire que ça. Ouais. Ça peut pas être plus pire.
As-tu trouvé ça dur, sortir de ce
oui,
monde-là?
Oui, ça a vraiment pas été facile. Ça a été un travail même jusqu'à aujourd'hui.
Je vais me tourner vers M. Prudhomme. Pas été facile.
Non, ben non, ça a pas été facile. On revient à la gestion de risque, la notion de risque. On faisait une approche qui était novatrice avec Savannah, et novatrice dans le sens où ça se fait un peu partout, des cas isolés où on travaille différemment, mais je pense que ça a amené, autant dans le dossier de Savannah que bien d'autres collègues, ça a amené une façon de revoir nos façons de faire, puis se mettre à la hauteur de...
J'ai deux questions parce que le temps file. Aujourd'hui, tu as quel âge, puis ta vie ressemble à quoi?
Aujourd'hui, j'ai 20 ans, je suis mariée. J'ai mon logis à moi, donc ça va super bien ma vie. J'ai vraiment, je travaille dans un concessionnaire, j'ai mes petites affaires à moi. Honnêtement, je pourrais dire que j'étais peut-être à 5 sur 100, puis maintenant je suis à peut-être 100 000 % là. Je vais super bien, puis mon but, moi, dans la vie, c'est vraiment de redonner à ces personnes-là qui ont où j'ai été à leur place à ce moment-là où j'étais dans la difficulté. Donc, un jour, j'aimerais ça pouvoir parler avec une jeune puis lui donner des conseils en tant que moi, j'ai vécu dans ces milieux-là, dans cette misère-là et dans cette difficulté psychologique.
Je pense qu'il y en a un bon nombre qui t'ont entendu ce matin, en tout cas.
Oui, je suis contente, honnêtement. Ça fait plaisir.
M. Prud'homme, moi, ce que je veux savoir, 24 ans à la DPJ, alors qu'on parle d'un taux de roulement de travailleurs puis de travailleuses qui débarquent, vous, comment ça se fait que ça fait 24 ans puis que vous êtes encore là?
Il y a un plaisir au travail, évidemment.
Mais c'est pas facile quand même.
Non, non, ça reste un travail hyper difficile. Puis là, aujourd'hui, je travaille dans une équipe à l'externe. J'ai des conditions de travail au niveau des horaires qui sont un peu plus normales. Je pense à mes collègues qui sont encore en centre de réadaptation, où là, le taux de roulement est immense, les plus vieux ont tous quitté. Ont quitté pour aller à l'externe comme moi ou dans d'autres missions là, des six. Là. Donc, je pense beaucoup à eux autres parce que effectivement la réadaptation à l'interne, ça reste un grand défi actuellement, le manque de personnel. Puis la même chose au niveau des intervenants sociaux, là, ARH, TS et compagnie, il y a un manque évident. Mais moi, je rencontre des jeunes comme Savannah et puis je lui en parlais dans l'auto en s'en venant. Il y a 20 quelques années, j'ai un chef qui m'a dit, tu sais, la journée où tu vas accepter de mesurer le succès différemment, tu vas en vivre plein au travail. Puis quand je regarde Savannah, puis on se voit encore régulièrement, ben c'est ça le succès. Elle n'a pas pris les chemins que j'aurais aimé, moi, comme père de famille, qu'elle prenne, mais elle a pris les siens. Puis aujourd'hui, ben c'est une jeune femme épanouie. Puis qu'effectivement, le goût de dire, ben comment moi je peux donner un coup de main encore, et elle le fait régulièrement.
Bravo. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Savannah, une femme adulte maintenant, épanouie, et Charles Prud'homme, éducateur depuis 24 ans à la DPJ.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Premier sujet ce matin, je dirais, variole et un peu COVID. Hier, on a annoncé que les cas se multiplient, donc 132 cas confirmés. Dans la plupart, ce sont des cas à Montréal et ça veut dire qu'on est devenu en quelque sorte l'épicentre de la maladie. Et l'autre chose, pas si on peut le mesurer, mais en tout cas, je peux vous dire, dans les environnements des collègues ici, il y a comme une remontée des cas de COVID. C'est-à-dire que des gens qui ont des symptômes pas trop graves, qui sont vaccinés, dans certains cas qui l'ont déjà eu, c'est comme peut-être qu'il y a une autre mini-vague, je ne sais pas trop. On fait le point avec Dr Luc Boileau, qui est le directeur national de santé publique. Dr Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je commence d'abord par la variole simienne. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi nous sommes l'épicentre du phénomène?
Ben, en fait, il n'y a pas une raison autre que le fait que, sans doute, qu'il y a eu un événement qui était, on appelle ça des super spreaders, c'est-à-dire des moments où est-ce qu'il y a quelques personnes qui s'assemblent avec plusieurs autres et qui créer une occasion de disséminer plus rapidement cette maladie-là. Alors, effectivement, on est l'épicentre ici au Québec, mais aussi au Canada, sinon même en Amérique du Nord. Alors, il y a certainement des gens qui auront voyagé en Europe, puisque ça s'était réparti un peu plus en Europe, et on arrive ici à Montréal avec aujourd'hui 135 cas confirmés. Et ça augmente, mais ça augmente pas d'une façon dramatique, là. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a probablement plus de cas que ça, parce que c'est pas une maladie qui est toujours très, très présente sur le plan de tous les symptômes. Donc, c'est pour ça que c'est important que ceux qui ont eu des contacts qui peuvent être à risque puissent être vus et traités, ou vaccinés même après les contacts. C'est mieux d'être vacciné avant, mais on ouvre maintenant la vaccination un peu plus pour ceux qui anticipe avoir des activités qui sont plus à risque, que ce soit ici à Montréal ou ailleurs, mais c'est surtout pour ceux qui prévoient, d'abord ceux qui vivent ou qui sont à Montréal et actifs là, comme hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et ceux qui prévoient venir fréquenter la région de Montréal pour ça, Bien, je pense que c'est mieux d'être vacciné avant là, parce qu'il y a un risque de propagation qui est sérieux.
Alors, si je suis un homme et que je prévois avoir des relations sexuelles avec un autre homme à Montréal, et peu importe où, là, mais disons particulièrement à Montréal, préférable de me faire vacciner.
Tout à fait. C'est exactement ça.
OK. Et quels sont les symptômes? Comment je me perçois que j'ai peut-être la variole?
Bien, c'est une maladie d'abord qui se présente pas très rapidement une fois qu'on a eu un contact. Ça prend souvent plusieurs jours, ça peut aller même jusqu'à 2 semaines. Puis généralement, ça va être l'atteinte de l'état général avec de la fièvre, des maux de tête. Mais c'est pas toujours présent, des douleurs musculaires, quelques ganglions qui font mal. Il y en a, ça peut être très douloureux, mais aussi des lésions. Alors, on voit ça arriver comme une vésicule. Ce sont des lésions comme un petit peu ulcérantes, là. Des lésions qui sont souvent autour des parties génitales, mais qui peuvent se présenter aussi au visage, même dans la bouche ou dans la gorge. Et les gens, lorsqu'ils ont ça, ils le voient. Par contre, il y a des fois où est-ce que c'est très insidieux, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de symptomatologie, il n'y a pas beaucoup de souffrance, et puis il y a quelques lésions, mais des fois, il y en a quelques-unes qui sont très souffrantes. Alors, ça varie d'une personne à l'autre. Chose certaine, c'est que quand on a ça, il faut consulter, puis il faut surtout s'isoler et ne pas être en contact de façon intime avec d'autres partenaires et aussi se protéger, là, protéger les autres de chez nous et surtout protéger les enfants ou les femmes enceintes qui sont plus à risque là, d'avoir des complications et surtout les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie qu'il faut surveiller quand même. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de décès. C'est une maladie qui peut être mortelle, mais on a l'avantage d'avoir d'excellents traitements lorsque ça arrive et que c'est très lourd. Donc, on a déjà eu 3 personnes hospitalisées, une bonne dizaine qui ont eu des traitements très spécialisés, qui sont des traitements qui sont rares et qu'il faut donc utiliser avec parcimonie. Et avec ça, ça va bien. Mais le plus important, c'est d'essayer de contenir cette poussée-là qui inquiète partout dans le monde. Et l'OMS se manifestait hier, mais ici à Montréal, on a les moyens, je pense, avec la bonne collaboration de tout le monde, de contenir ça et de réduire ça par la prudence, mais la vaccination beaucoup.
Et le vaccin est plus que disponible. Je voyais que c'est quoi, 40 000 doses qui sont rendues disponibles par le fédéral. Alors, les vaccins manquent pas, là.
Les vaccins manquent pas. Remarquez bien, 40 000, faut quand même rester ciblé sur des gens qui ont plus de risques, comme on l'entendait. Mais c'est pas, on n'a pas une limite là en ce moment. C'est-à-dire, on a une limite de 40 000, mais là, on en a donné plus de 3 000 jusqu'à maintenant. Donc, il nous reste de l'espace. Et puis, donc, les personnes qui savent qu'elles sont à risque. Vraiment, là, c'est mieux d'aller chercher cette vaccination-là. On fait tout pour ça. Vous savez comment est-ce qu'on était efficace pour la vaccination dans les 2 dernières années? Ça, c'est le même type d'expertise qui est là, mise de l'avant pour ça. C'est pas à la même endroit. Là. Des fois, on croise COVID ou variole, mais c'est bien organisé à Montréal et c'est bien organisé. Ça s'organise bien dans toutes les régions aussi. Et ce qui fait en sorte qu'on pense que ça va être très efficace, mais encore faut-il que les gens viennent et soient conscients du risque. Parce que vous savez, on rentre dans une période de festivités estivales aussi, toutes sortes d'événements. Et entre autres, même ici en fin de semaine, c'est connu pour être une fin de semaine où il y a plus de risques, vous l'entendez. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête. Là. Puis le tourisme, c'est une chose, là, mais le tourisme sexuel à risque, c'est une autre chose. Alors, faut garder ça à l'esprit. Puis même ceux qui sont les travailleurs du sexe, on les invite à aller se faire vacciner, bien sûr, là, parce qu'ils sont encore plus à risque. Mais il y a des gens qui se connaissent bien, connaissent leur comportement puis leur désir d'en avoir. Puis c'est tout à fait correct. Là. Je suis pas contre ça. Mais l'idée, c'est de bien se protéger pour soi et pour les autres.
Là, on parle de contact sexuel entre hommes. Est-ce qu'il y a des femmes qui attrapent la variole? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été diagnostiquées?
Ben, en fait, pas jusqu'en ce moment, mais c'est tout à fait possible. C'est pas une maladie qui ne s'attaque qu'aux hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. C'est que en ce moment, c'est ce groupe-là qui dans lequel on trouve cette maladie-là. Mais vous votre question m'amène à dire que c'est pas du tout impossible qu'on ait des femmes, bien sûr. Alors, il faut s'aviser tout de suite de faire en sorte de réduire cette propagation-là pour pas que ça se retrouve dans d'autres groupes et que ça fasse en sorte que ça se répartisse ou en tout cas ça progresse en perdant un peu le contrôle de tout ça. Donc, il faut garder ça le plus restreint possible et faire en sorte de, idéalement, faire disparaître ça du paysage québécois ou canadien. Puis, c'est quelque chose qui commande la participation de tout le monde. Il y a okay. aussi, M. Arcan, si vous me permettez, oui. c'est une maladie qui n'est pas exclusive là, de se transmettre. En fait, c'est pas une maladie transmissible sexuellement, c'est le contact peau à peau qui fait ça. Alors, c'est pas parce qu'on porterait, mettons, un préservatif que ça empêcherait. Non, c'est vraiment le contact peau à peau. Et ça peut aussi se transmettre par gouttelette, mais nous n'avons pas de cas. Il y a peut-être un cas là, qui est un partage domiciliaire, mais c'est pas quelque chose qui va, par exemple, se transmettre en marchant dans la rue, dans des festivités ou en prenant le métro ou en côtoyant quelqu'un pour quelques minutes. C'est pas comme ça. Là. Ça reste quelque chose qu'il faut vraiment être très proche. Et c'est pour ça. Puis un contact là, vraiment peau à peau avec les lésions, c'est plus comme ça que ça se transmet. Pour l'instant, essayons de miser là-dessus okay. et de faire tout ce qu'il faut là.
Je vais vous parler de la COVID. Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de cas, selon vous? Il me semble que là, c'est pas scientifique pantoute mon affaire, mais j'en vois un peu plus qu'avant, qu'au cours des dernières semaines.
Ben, vous pourriez être un bon indicateur pour nous, parce qu'effectivement, on en voit plus et on en note plus. Alors, il y a une augmentation du nombre de cas. Ça, avec tous les indicateurs qu'on a, là, incluant les points de vue que vous partagez, on le sait qu'il y a une augmentation qui est de l'ordre d'à peu près pas loin de 20% là, sur la semaine dernière. Donc, ça, c'est le nombre de cas. Est-ce qu'il y a un effet sur le système de soins? Est-ce qu'on a commence à avoir des signes de pression sur le système hospitalier? Bien, ce qu'on a, c'est d'abord des personnels qui reprennent le contact avec le virus et puis qui ramènent, c'est pas qu'ils reviennent avec ça dans l'hôpital, là, c'est juste qu'ils sont obligés de prendre congé. Donc, on a des gens qui sont obligés d'être en congé parce qu'ils ont attrapé le virus. Ça, c'est un autre signe que nous avons. Toutefois, pour l'hospitalisation, les gens qui viennent pour être hospitalisés parce qu'ils sont malades là, de la COVID, ça, on en a moins. Pourquoi? Parce que exactement ce que vous disiez tantôt, c'est qu'on le voit que ça reprend, qu'il y a des contacts et la transmission se reprend, mais les gens ont profité de la vaccination et plusieurs ont déjà eu même l'infection, vous le disiez, il y a des gens qui ont à nouveau une COVID. Alors, le fait d'en avoir eu une avant puis d'avoir été vacciné, là, mais surtout d'avoir été vacciné, réduit notre risque de développer une maladie grave. Alors, ça reste une maladie importante qui peut avoir des dénouements dramatiques, vous le savez, mais l'important, c'est de reconnaître qu'il y a plus de contacts, qu'il y a plus de transmissions en ce moment, même si le beau temps est au rendez-vous. On le voit et on a des variants qui viennent s'installer ici au Québec, des variants qui sont plus contagieux. Il y en a un, là, je vais vous dire le BA2.12.1, là, mais je ne veux pas exagérer la nomenclature, là, mais qui était très présent aux États-Unis jusqu'à récemment, qui a fait une vraie vague, là, même elle n'est même pas complétée. Mais ça, on en a là, probablement autour de 40% de nos cas, là, ce sont des cas de ce type-là, où on a des BA4, BA5 qui nous viennent originellement d'Afrique du Sud et qui ont passé par l'Europe, qui viennent ici. Donc, on a des variants. Et c'est des variants plus contagieux. Mais pour l'instant, nous ne croyons pas que nous sommes en route pour une poussée là, énorme. On reste dans une période estivale qui nous permet d'être plus à l'aise à l'extérieur. Ceux qui ont des craintes, et c'est légitime, et qui veulent pas, vous portez le masque, gardez vos distances, toutes ces mesures que vous connaissez déjà. Les gens ont bien profité de la vaccination. On s'enligne vers une vaccination plus organisé pour être une dose de rappel là, à la fin de l'été ou au tout début de l'automne, mais mettons à la fin de l'été probablement, pour prévenir cette vague qu'on anticipe être plus tard à la fin de l'été ou à l'automne. Mais pour l'instant, ce que nous voyons, ce sont des ondulations. Il y a plus de cas. Est-ce que ça va continuer à monter? J'espère que non. Mais on ne peut pas être certain de cela. Mais pour l'instant, on ne manifeste pas une inquiétude, là, sauf celle de reconnaître que le virus est toujours là et qu'on ne peut pas penser qu'il est disparu. Là. Il est là et vous le soulignez, on a plus de cas.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir et bonne
journée. Dr. Luc Boileau, le directeur national de la santé publique.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Les voyages. Et on a vu hier le fédéral, par exemple, enlever certaines restrictions. Vous allez devoir garder le masque dans l'avion, mais il y aura moins de contraintes, par exemple, vaccinales. Et plus on libère les gens, plus on enlève des restrictions sanitaires, plus la demande pour les voyages augmente. Ce matin, il y a le New York Times qui publie un papier en disant, grosso modo, si vous pensez voyager, exemple, en Europe cet été, quelques conseils de base. Vous allez devoir vous présenter tôt parce que les files d'attente sont imposantes. Deux, vous allez devoir prévoir une valise à l'intérieur de l'appareil avec vêtements, médicaments, l'essentiel pour peut-être quelques jours parce qu'il y a des bagages qui sont perdus, qui sont retrouvés que quelques jours plus tard. Vous allez donc passer beaucoup de temps. Il y a des vols annulés. Paris, il y a des moyens de pression. Même chose en Italie. Je fais le point sur ces conditions de voyage avec M. Mehran Ebrahimi, qui est le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'UQAM. M. Ebrahimi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
D'abord, comment expliquer là, le mot qui revient, ce chaos dans les aéroports actuellement? Là, je ne parle pas juste de Toronto, mais visiblement un peu partout.
Alors, je ajouterais à ce mot que vous avez très bien choisi, le mot prévisible. C'était un chaos prévisible. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand toujours au lendemain, suite à la pandémie, le trafic aérien a chuté de 80-90%. Les revenus des aéroports, puisqu'on parle des aéroports ici particulièrement, donc ont chuté. Et dans plusieurs pays, donc, on a essayé de supporter l'infrastructure aéroportuaire, notamment en termes de maintien des corps de métier, des experts, des employés stratégiques de l'aéroport. Chez nous, le gouvernement fédéral, puisque c'est sa juridiction, sur tous les dossiers qui touchent ce secteur-là, n'a jamais réagi. Il a laissé la situation se détériorer. Une fois qu'on était au pied du mur, là, on s'est mis à vouloir régler, mais c'était déjà trop tard. Pour les passeports, c'est la même chose. Pour les aéroports, c'est la même chose. Pour aider les compagnies aériennes, c'est la même chose. Quand on a vu que des milliers de gens allaient dans le sud, qui ne respectaient pas les règles sanitaires et qui revenaient avec le virus, on a réagi à chaque fois qu'ils étaient au pied du mur. Et donc, ce qui fait que, comme on n'avait pas de plan, on n'avait pas de stratégie, on n'a pas pensé qu'un jour, on va être dans une période après pandémie, on a laissé la situation se détériorer. Les aéroports se sont trouvés sans argent, puisque eux vont chercher leur argent avec le trafic, avec les activités secondaires, comme par exemple quand on achète des choses dans les boutiques, l'aéroport et ainsi de suite. Donc il a fallu qu'ils se départissent de leur personnel stratégique. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ces gens-là sont allés trouver du travail ailleurs. Et là, la pandémie arrive à sa fin, en tout cas c'est moins intense qu'avant. Les gens ont le goût de voyager, les gens sont mis à voyager, à réserver, sauf qu'on n'avait plus de personnel, on n'avait plus des gens de métier qui fassent ce qui est nécessaire de faire dans les aéroports.
Mais pour les gens qui nous écoutent ce matin, M. Ebrahimi, ça veut dire clairement que plus la demande est forte, plus la pression est énorme, plus on se retrouve avec des files d'attente, des vols annulés à la dernière minute, des employés, pilotes ou autres qui veulent avoir des augmentations et qui font des moyens de pression. Qu'est-ce que vous dites à mes auditeurs ce matin qui prévoient voyager, par exemple, aux États-Unis cet été et qui prennent l'avion, là, ou encore en Europe?
En fait, je pense un peu comme vous avez si bien mentionné les consignes de New York Times, c'est-à-dire que mettez dans votre esprit, mettez à l'esprit que on ne voyage pas, en tout cas pour le moment, comme on voyageait avant la pandémie. Ça, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi que si vous partez une semaine en vacances, il faut que vous gardiez à l'esprit que le jour de départ et le jour d'arrivée, vous allez être pris dans le, j'allais dire, dans cette machine très complexe qu'est les aéroports. Alors, on espère, par exemple, en Europe, où ce sont des conflits de travail, peut-être que ça va se régler, mais nous, on a un problème qui est beaucoup plus structurel, c'est-à-dire on a des gens qui sont absents, qui ne sont pas là, qui ne peuvent, on n'a pas de monde. En Italie, en France, c'est des gens qui sont en grève, ils profitent de la période estivale pour essayer d'aller chercher des revendications, et espérons que ça va se régler, mais chez nous, c'est que même si, du jour au lendemain, on voulait faire quelque chose, tous les efforts, on ne peut pas inventer des bagagistes, des gens de maintenance, des gens qui mettent l'essence dans l'avion, des gens qui font l'enregistrement, des gens qui font qui sont des livraisons dans les avions, les pilotes qui sont testés COVID, le nombre de pilotes qui manquent, tout ça, c'est structurel. Et donc, les gens doivent garder ça à l'esprit et préparer à cette idée de si leur avion attend 3 heures sur le tarmac pour avoir accès à un passerelle pour sortir, ça fait partie des choses normales pour l'instant.
C'est très clair. Merci beaucoup, M. Ibrahimi, qui est le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'UQAM. En résumé, si vous voyagez à l'étranger, que vous prenez l'avion, je retiens sa phrase, prévoyez la journée de départ puis la journée d'arrivée comme étant des journées perdues. C'est-à-dire des journées où vous allez attendre, puis que vous allez devoir faire la queue, puis que ça se peut que vos bagages soient perdus. Puis là, je ne sais pas d'être un oiseau de malheur, là. Je voyage, moi, cet été. C'est assez perso comme entrevue, je l'avoue candidement. Parce que, puis là, je regarde Catherine, puis Bénédicte, puis on se regarde tous, là. Puis on se dit, OK, il faut prévoir les déplacements. Deuxièmement, la question qui est ajoutée dans cet article du New York Times, c'est est-ce que ça pourrait être pire que ce lit actuellement? Réponse, oui. Donc, de se dire, ça se peut que mon vol soit annulé, ça se peut que mon vol soit reporté, je suis posé quitter à 20 heures, ça va aller au lendemain. Tout ça est possible. Alors, si vous partez pour une semaine, ça se peut que la semaine soit écorchée pas mal, ça se peut que vos bagages soient égarés. Si vous voyagez au Québec, on le disait plus tôt cette semaine, pénurie de main-d'œuvre, des restos qui ferment, pas de sauveteurs dans des piscines, donc des piscines qui sont fermées. Apportez-vous un lunch pour le lundi, la plupart des restaurants sont fermés. On veut, puis on a besoin de prendre des vacances parce qu'on a été, on le sait tous, là, dans des périodes de confinement, plus ou moins. Puis là, c'est comme il fait beau, puis je voyais des auditeurs qui travaillent dans le domaine du voyage qui m'écrivent, « Monsieur Arcan, depuis que le mois de juin a commencé, le téléphone sonne sans arrêt. Des gens qui réservent, ils veulent partir, ils veulent sacrer le camp. Le booking du temps des fêtes est commencé depuis longtemps parce qu'on veut s'en aller. Puis là, tout le monde est à la même place, puis moins il y a de contraintes sanitaire, bien, c'est sûr que là, tu dis, parfait, j'ai plus besoin d'être vacciné, j'ai pas besoin de passer un test avant d'y aller, il y a pas de test aléatoire quand je reviens. Sauf que là, les compagnies fournissent pas. À Montréal, me dit-on, pour l'instant, c'est pas si pire, mais disons que le party s'en vient dans les prochaines semaines.
L'essentiel de Paul Arcan.
OK, je le sais, il y a beaucoup de nouvelles déprimantes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on regarde, par exemple, les activités sur les marchés boursiers, on pense à nos vacances, mais on se dit, waouh, ça va être le fun, voyager. Puis des gens qui se retrouvent avec, par exemple, des cas de COVID. Puis c'est vrai qu'il y a une augmentation. Docteur Boileau nous l'a dit. Je suis très conscient de ça. Et là, je me suis dit ce matin, justement, pour ouvrir un peu la fenêtre, laisser entrer la lumière et le soleil... Nous accueillons Jannick Fournier, qui est la grande gagnante. On lui a parlé il n'y a pas si longtemps du concours Canada's Got Talent. Catherine est là en studio.
Oui!
Elle porte le flambeau de Jannick depuis déjà un bon bout de temps. Puis Jannick est avec nous. Bonjour!
Bon matin tout le monde!
On a besoin de vous ce matin. On a besoin un peu de votre bonne humeur, de votre positivisme. Comment ça va dans votre vie actuellement, là?
Ça va vite, ça va bien, puis je suis très heureuse de vous apporter mon petit bonheur, c'est ma mission sur Terre. Mais ça va vite, c'est extraordinaire, les nouvelles rentrent à tous les jours, les bonnes nouvelles rentrent à tous les jours. Alors c'est juste du beau.
Donnez-moi des exemples de ces bonnes nouvelles.
Ben le contrat signé avec Universal Music, les albums, là, on rentre en studio très 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 bientôt pour commencer à enregistrer tout ça. une belle série de spectacles qui a commencé à s'annoncer. Un déménagement bientôt avec les enfants. Les enfants auront chacun leur chambre. Je suis très heureuse de tout ça. Et voilà, ça, c'est pas mal des grosses nouvelles, ça.
Et la vie de Jannick a complètement changé depuis la victoire à Canada's Got Talent. Mais là, si on pense à la chanteuse, l'album va ressembler à quoi? Parce que t'as beaucoup repris des chansons de Céline Dion, des chansons à voix aussi. Ça va ressembler à quoi le premier album, justement, avec Universal?
Il y aura quelques compositions. Mais on y va aussi avec des reprises. Mais des reprises qui n'ont jamais été reprises. Quelque chose qui... On va vraiment faire côté musical aux couleurs de Jannick, si on veut.
Donc, des chansons à voix encore. Ouais. Oui. On peut pas en savoir plus. Quel genre de reprise, là, vers quel artiste ça pourrait aller?
Ben, je vous le dis pas. Ce sera une surprise à découvrir. Mais je vous invite à le découvrir parce que ça va être très varié.
Mais ça veut dire que, en tout cas, je présume que ça implique une tournée pan-canadienne. Tu vas aller faire des spectacles un peu partout?
Je sais déjà à mon calendrier que j'ai un spectacle de prévu à Toronto, mais je me souviens pas du nom de la salle parce que je vis un jour à la fois. Je pense même plus à mon horaire. Je regarde mon agenda tous les jours. Mais vraiment, au niveau du Québec, beaucoup de dates, puis un spectacle à Toronto pour le moment. C'est ce que j'ai à mon agenda.
Et là, pour conjuguer avec la famille, parce que tu as deux enfants, tu parlais de déménagement tantôt aussi, c'est plein de changements dans vos vies. Comment tu vas arriver à gérer tout ça, en fait, avec la tournée, la carrière, l'enregistrement de l'album?
Ben, je suis bien entourée. Je me suis organisée des gens très, très proches de moi, très proches des enfants qui sont déjà, qui me suivent un peu partout quand j'allais chanter à l'extérieur depuis 17 ans. Alors, c'est un équilibre pour mes enfants en même temps d'avoir ces mêmes personnes-là autour de nous. Puis je l'appelle ma garde rapprochée. Autant pour moi aussi d'être avec cette belle gang-là. Autant des membres de ma famille que des amis très, très proches.
Mais ça fait toute une charge mentale quand même, là. Même si vous avez de l'aide puis des gens qui sont autour de vous, ça fait beaucoup de choses à penser. Puis je dirais aussi peut-être beaucoup de décisions à prendre. Pensez-vous faire ça temps plein?
Oui. Oui, je veux faire ça temps plein, si j'ai la santé, bien sûr, pour tout continuer ça, mais tout va bien pour l'instant, je ne vais pas inquiéter personne, mais j'aimerais ça faire ça une dizaine d'années, certainement.
Est-ce que, Jannick, depuis que tu as remporté justement les grands honneurs, on parle de toi, tu fais la une des magazines, on est en entrevue ce matin d'ailleurs, est-ce que la popularité ressemble à ce à quoi tu t'imaginais justement quand tu chantais au Saguenay, quand tu rêvais justement à cette carrière?
Ben, je m'étais comme pas trop faite d'idée, mais voir la réaction des gens, ben, je le reçois comme un cadeau. C'est super, super agréable à vivre. J'ai pas de difficulté avec ça. Je suis une fille de public. Je suis une fille qui, je suis reconnaissante de ce que les gens ont fait pour moi. Les gens ont voté pour moi, là. C'était extraordinaire de voir on le sait, on en a parlé, comment les gens se sont regroupés. Et là, j'entends autant la madame de 90 ans à l'épicerie venir me raconter comment elle a fait pour voter en donnant son adresse à ses petits-enfants. Qu'à l'autre madame de 25 ans qui est là avec son bébé dans sa coquille qui me dit « on a tellement pleuré, c'est extraordinaire ». Ben, j'aime ça recevoir ça, puis si ça me tente pas, ben, je peux rester chez nous à ce moment-là. C'est très agréable. C'est la paix au bout de tout ça, je dirais.
Parfait. Vous nous permettez de vous appeler une fois de temps en temps pour prendre de vos nouvelles?
Ben, avec grand plaisir, ce sera toujours un bonheur de vous parler.
Merci.
Et Jannick, dernière chose, est-ce que tu vas garder ton accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Oh.
J'espère, là.
Ben!
Merci beaucoup, Jannick Fournier.
C'est 23.